right, wind 250 degrees, 1 feet on
clear.
Clear.
Clear the ramp, 279,
Delta 500. Clear, green. Let's head.
Salut et bienvenue sur l'épisode 8 de l'expérience Shiban. Je suis Sébastien et j'espère que, comme toutes les deux semaines, tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir le capitaine Grégory, pilote de la patrouille de France au poste d'intérieur droit, indicatif Athos 2. À 36 ans et 2500 heures de vol, Grégory est déjà un Shiban comme on en fait peu. Issu du cursus EOPN, élève officier du personnel navigant, il a été pilote de chasse sur Mirage 2000N, pouvant emporter l'arme nucléaire, puis sur Rafale biplace, toujours lié aux forces aériennes stratégiques. Tout cela donc avant de rejoindre la patrouille acrobatique officielle de l'armée de l'air et de l'espace, plus connue sous le nom de Patrouille de France. Bonsoir Grégory, merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Salut Sébastien.
Alors tout d'abord, je tenais à te féliciter car tu as très récemment été nommé au grade de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Peux-tu nous expliquer rapidement en quoi cela consiste et comment tu as vécu cette nomination ?
La Légion d'honneur, c'est la plus haute distinction française. Donc c'est évidemment un immense honneur d'avoir été nominé dans cet ordre prestigieux. Ça vient récompenser l'ensemble de ma carrière, de mes années de service au sein de l'armée de l'air et de l'espace et mes quelques opérations extérieures. Donc non, c'est vraiment une très grande fierté, mais aussi une très grande humilité, parce que je rejoins un ordre dans lequel énormément de gens qui ont contribué à faire la France qu'elle est aujourd'hui appartiennent déjà. Donc c'est à la fois une fierté et une humilité vraiment, vraiment profonde.
Alors tu nous as parlé de toute ta carrière, justement, est-ce que tu peux nous résumer ton parcours depuis le lycée, la prépa, la formation de pilote de chasse, les machines que tu as eu l'occasion de piloter et ton passage de quelques années, si je ne dis pas de bêtises, en état-major ?
Oui, alors effectivement, j'ai eu mon bac scientifique en 2001. À l'époque, j'avais 18 ans, mes parents m'ont demandé ce que je voulais faire. J'ai dit, je vais être pilote. Et ils m'ont dit, tu vas faire une prépa. Donc je suis parti en classe prépa MPSI. Donc on nous a expliqué qu'on se destinait à une formation d'ingénieur pour devenir ingénieur. Moi, c'était pas foncièrement ce vers quoi je m'imaginais. Donc, à la fin de la première année, j'ai passé le concours des petites mines, le concours de l'ENA, et le concours des EOPN, donc des élèves officiers du personnel navigant de l'armée de l'air. J'ai eu les petites mines, donc je suis parti en école, à l'école des mines de Nantes, qui s'appelle maintenant l'IMT Atlantique, je crois. Et en décembre, l'armée de l'air m'a rappelé en disant que j'avais été reçu et que je commençais la formation de pilote de chasse en mars 2003. Donc je suis rentré en mars 2003 dans l'armée de l'air. Alors débuter la formation, c'est un peu galvaudé, parce qu'à l'époque, ça commençait par une sélection en vol, de 7 vols. À ce moment-là, pendant cette sélection, ma vie de militaire avait déjà commencé. Je portais l'uniforme et j'étais avec ma promo et c'était parti. Voilà. Donc, à l'issue de cette sélection, j'étais reçu comme pilote. Donc, j'ai pu commencer initialement par une phase militaire, donc de formation militaire initiale et de l'officier à Salon de Provence, sur lesquels j'ai enchaîné ma formation théorique de l'ATPL. Donc, pour passer l'ATPL théorique. Et puis ensuite, commence vraiment la formation en vol à proprement dit, avec une phase sur TB30 Epsilon. Ensuite, une phase de pré-spécialisation chasse, toujours sur Epsilon, avant de commencer l'Alpha Jet à l'école de l'aviation de chasse à Tours. À la fin de Tours, on est breveté. Donc moi, c'était en juillet 2006. On rejoint CASO pour la formation spécifique de transition opérationnelle avant d'avoir notre première affectation sur avion d'armes. Voilà, donc ça, c'est la formation que j'ai subie. Aujourd'hui, elle est un petit peu modifiée avec l'arrivée du PC-21 dans les forces. Mais globalement, ça va suivre à peu près le même cursus d'une formation aéronautique initiale, puis une pré-spécialisation chasse ou transport, et puis ensuite une transition opérationnelle. Et donc du coup, ma première affectation a été sur la base de Luxeuil, l'escadron de chasse 2-4 Lafayette sur Mirage 2000N, auquel j'ai passé 4 ans, et sur lequel j'ai passé toutes mes qualifications jusqu'à celle de chef de patrouille. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de vivre la transition technologique des forces aériennes stratégiques en passant sur Rafale biplace, sur l'escadron de chasse 1-4-11, qui est devenu ensuite 1-4 Gascogne, à Saint-Dizier. Là, j'ai passé 5 années vraiment très très riches aéronautiquement parlant, avec l'accès à toutes les missions qu'offre le Rafale, c'est-à-dire absolument toutes les missions que l'armée de l'air et de l'espace fait aujourd'hui. À l'été 2016, j'ai été muté à l'état-major, toujours des forces aériennes stratégiques, pour un passage un peu plus dans l'opération, puis ensuite un peu plus dans la préparation de l'avenir, donc la gestion de l'évolution des matériels chasse à moyen et long terme pour l'armée de l'air. Donc une mutation vraiment très intéressante qui parle de l'avenir. Et j'ai présenté mon dossier pour la patrouille de France. Et après les sélections qui se sont déroulées à l'hiver, et ben j'ai été reçu à l'été 2019 à la patrouille de France pour intégrer, pour être faire partie de la patrouille de France 2020. Et aujourd'hui, c'est donc ma deuxième année en 2021.
Ça fait beaucoup de choses condensées en deux minutes. Alors, j'aurais régulièrement entendu dire qu'un pilote militaire était d'abord militaire, puis pilote. Dans quelle mesure est-ce vrai? Et toi, personnellement, tu as intégré l'armée de l'air parce que tu aimes l'armée ou parce que tu aimes l'air?
Alors, oui, je suis vraiment militaire avant d'être pilote. Enfin, je mets ma combinaison avec mes grades avant de monter dans l'avion tous les matins. Donc, la question ne se pose pas. J'ai signé un contrat d'engagement. J'appartiens à l'armée de l'air et de l'espace. Et donc, je suis 100% militaire. Petit, j'ai toujours eu une passion pour les avions de chasse. Effectivement, chaque fois qu'il y en a un qui passe dans le ciel, ben, je pense qu'on est nombreux à lever les yeux et à le regarder passer. Donc, ça a commencé comme ça. À contrario, dans ma famille, il n'y avait pas de militaires, pas de gens dans l'aéronautique. Donc, je ne sais pas trop d'où ça vient. Mais toujours est-il que ben, j'avais envie de faire quelque chose, d'être utile. Voilà. Donc, si on combine ça avec le fait que le seul endroit où on peut piloter les avions de chasse, c'est l'armée de l'air, et ben, du coup, j'ai décidé de passer le concours pour me dire, ben voilà, je me mets toutes les chances de mon côté pour pouvoir réaliser mon rêve qui est d'être pilote. Et puis, ben, ça a marché, donc c'est top. Mais oui, non, on est vraiment des pilotes militaires. Et pour ceux qui en doutent, à la patrouille de France, on est également des pilotes militaires qui sont recrutés parmi le vivier des pilotes militaires.
Dans tous les métiers, dans quelques métiers que ce soit, tous les aspects ne sont pas nécessairement plaisants. Quand on est pilote de chasse, puis pilote à la patrouille de France, est-ce que tout est aussi extraordinaire qu'on peut se l'imaginer quand on est jeune, par exemple? Est-ce que tu peux nous parler un peu des moments pénibles potentiellement auxquels tu as été confronté en formation, dans tes débuts en tant que pilote de chasse, dans la carrière ensuite?
Alors, c'est une bonne question. Alors oui, effectivement, s'il y avait un boulot parfait, ça se saurait et tout le monde le ferait. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que tous les pilotes de l'armée de l'air et tous les pilotes de chasse en particulier sont passionnés par les avions. Donc on a cette chance de pouvoir vivre et faire un métier qui combine notre passion et notre envie de servir la France, etc. Donc ça, c'est quand même le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement si on prend par exemple un vol en escadron qui va durer 2 heures. Bon, bah, je vais commencer par faire 3 heures de préparation, 1 heure de préparation, 1 heure de briefing. Ensuite, il y a 1 heure pour aller à l'avion et puis en revenir. Ensuite, il y aura 2 heures de vol, effectivement, puis 1 heure de débriefing. Donc, en gros, ça fait 8 heures, 7 ou 8 heures, j'ai pas compté, mais dans la journée, pour juste un vol de 2 heures. Donc, c'est vraiment pas juste, on vient à l'avion, on vole, on rentre un peu comme en aéroclub, etc. C'est vraiment un travail à part entière. Donc, mais tout ça, c'est les bons côtés du boulot, parce que tout est tourné vers le vol et l'opérationnel. Maintenant, à côté, on est militaire, on fait partie de l'armée de l'air et de l'espace, il y a un escadron à faire tourner, il y a des cellules dans lesquelles on a du travail, on va dire, de papier, de cellules, pour faire avancer tout ça. Donc ça, c'est un petit peu moins rigolo, mais malgré tout, c'est essentiel parce que c'est ça qui fait avancer notre institution. Voilà, donc ça, c'est pour vraiment, on va dire, cadrer le fait que ma journée, elle est pas juste un peu comme les chevaliers du ciel. Je décolle, je fais le tour du Mont Blanc et je me repose et je vais boire une bière avec mes copains. Voilà, c'est pas ça.
Ensuite, il n'y a pas que ça, en tout cas.
Pardon?
Il n'y a pas que ça, en tout cas.
Il
n'y
a pas que ça, voilà. je te laisse saliver la responsabilité de tes propos. Mais non, mais voilà, il n'y a pas que ça. Il y a vraiment, c'est un métier de professionnel. Donc le but, c'est vraiment de remplir une mission. Ensuite, oui, il y a des moments difficiles, bien sûr. La formation, elle est extrêmement exigeante. Elle est longue, elle est coûteuse en énergie. Il y a beaucoup de travail à fournir parce que, avant de pouvoir voler, il y a une énorme masse de connaissances à intégrer. Donc ça, c'est quelque chose de quand même qui est assez lourd hein, quand on est jeune, hein, quand on a 20 ans, 21 ans, d'être dans crouler sous cette masse de travail alors que au début on passe la TPL, donc c'est assez flou, et puis ensuite on vole sur l'epsilon, c'est très bien, mais on voit pas vraiment encore la route est tellement longue que le bout du tunnel est vraiment loin. Mais à côté de ça, on est dans une promo, il y a une ambiance de groupe, il y a une émulation qui fait que on avance et la formation est vraiment très bien faite pour ça, qui est que ben, si on est 10 dans la promo et qu'il y a 10 bons candidats, et ben, il y aura 10 pilotes de chasse. Il n'y a pas une sélection une fois qu'on est rentré, une fois qu'on est dedans. Ben, le but, c'est de progresser au rythme auquel l'armée de l'air et de l'espace veut nous voir progresser pour pouvoir un jour toucher notre rêve qui est de faire de l'avion d'armes. Voilà, mais maintenant, ben voilà, j'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments durs où j'étais un peu moins performant, où ça se passait un peu moins bien, ou même en escadron, ben, quand il y a un exercice fantastique aux États-Unis qui se monte et puis ben, qu'on n'y va pas, ou qu'on a failli y aller mais qu'on n'y va plus parce qu'on n'est pas affecté sur telle opération extérieure, etc. Voilà, donc il y a des moments plus ou moins durs, ou une mutation qu'on n'a pas souhaité peut-être aussi, mais voilà, l'avantage, tu parlais tout à l'heure de est-ce qu'on est militaire ou d'être pilote, un des gros avantages du métier de militaire, c'est que bah, y a de la variété tout le temps. Une mutation, ça passe vite, c'est 2 ou 3 ans, et puis ensuite on va changer, on va voir autre chose, on revient sur un avion, etc. Donc moi, j'ai aucun regret sur ma carrière. Elle a été riche à tout point de vue, et même sur des mutations qui peuvent paraître un peu moins exaltantes par rapport à celle de faire du rafale tous les jours, mais c'est des mutations dans lesquelles je me suis épanoui. Donc oui, il y a des moments durs, mais à la fin, je fais du rafale, quoi. Donc à la fin, quand même, je préfère largement ça à faire un autre métier dans lequel bah, je ne toucherai pas un avion, ni de près, ni de loin.
Alors, on va parler un peu de travail en équipage, si tu veux bien. Oui. Il existe dans l'armée de l'air des avions de chasse biplace et des avions de chasse monoplace. Tu as toujours volé sur biplace. Pourquoi et qu'est-ce que ça change?
Alors, moi, depuis le tout début, depuis quasiment le premier vol à Cognac sur Epsilon, j'ai voulu faire du biplace. Alors pourquoi ? Il y a une appétence probable pour le travail en équipe. Hein. On est deux dans l'avion, et réussir quelque chose à deux, c'est quand même, je trouve, quelque chose de vachement plus gratifiant que de le réussir tout seul. Ça, c'est un avis personnel. Maintenant, voilà, dans mon avion biplace, j'étais avec un navigateur officier système d'armes qui ne sait pas piloter. Donc en fait, je ne surveillais pas son travail, il ne surveillait pas le mien parce qu'on avait des boulots qui étaient décorrélés. En revanche, une fois que j'avais une qualification opérationnelle assez haute, je voulais avec des jeunes NOSA et je les formais tous les jours. Quand j'étais plus jeune, je voulais avec des NOSA plus expérimentés qui me formaient tous les jours. Donc ne pas avoir le même travail ne veut pas dire qu'on peut pas former les gens. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, la différence entre les deux avions. Bah, aujourd'hui, tu prends un Rafale monoplace, un Rafale biplace. Il y a extrêmement peu de différence. On fait les mêmes missions, on assure la même posture permanente de sûreté, donc la police du ciel. On fait les mêmes opérations extérieures, on fait les mêmes exercices internationaux, donc il n'y a aucune différence. La seule différence, elle est sur les missions qu'on appelle le haut du spectre. C'est-à-dire quelque chose où ben, il faut une petite touche en plus, une petite force de travail en plus. Et ben, c'est sûr que deux cerveaux, eh ben, ça peut faire plus de choses qu'un cerveau quand c'est vraiment le feu, j'ai envie de dire. Sur 90% des missions, effectivement, un monoplace fera aussi bien sa mission qu'un biplace, un biplace fera aussi bien sa mission qu'un monoplace. En revanche, dans des phases très très denses d'opérations extérieures où il y a des accrochages au sol, où il y a peut-être 3 ou 4 interlocuteurs avec qui discuter en même temps, et ben là, être deux, ça aide. Dans les missions de dissuasion, tu en as parlé un petit peu dans la présentation, ben, c'est une mission extrêmement dense sur lesquelles ben, être deux, c'est un avantage énorme et nécessaire. Donc voilà. Après, les mauvais côtés, c'est quoi? C'est plus compliqué de voler à deux. Parce que généralement, tu as tendance à être plutôt d'accord avec toi-même. Mais sauf que là, tu es deux dans un avion. Donc ça veut dire il faut être d'accord et sans forcément se parler. Parce que comme je t'ai dit, tu peux discuter en même temps avec le contrôleur aérien, avec tes équipiers, avec ton ravitailleur. Tu as peut-être 3 interlocuteurs en même temps. Dans le Rafale, par exemple, tu as 3 postes radio. Tu as 2 postes radio plus 1 poste sur la liaison de données. Et donc, en plus, il y a une 4e personne à parler qui est ton NOSA. Et le NOSA, inversement, le pilote. Donc, travailler à deux, c'est compliqué quand tu peux pas te parler et que, il faut prendre des décisions des fois en quelques secondes. Mais, d'un côté, c'est ce qui rend le boulot aussi vraiment, vraiment passionnant et la joie de réussir quelque chose de compliqué à deux quand tout s'est bien goupillé, etc. Là, c'est vraiment quelque chose dans lequel, moi, je me suis vraiment, vraiment épanoui. Voilà. Après, la mission de monoplace, le vol en monoplace est aussi très bien. Hein. Dans mon avion de la patrouille de France, je suis tout seul. Je m'embête pas. Rassure-toi, j'ai suffisamment de travail pour deux. Mais non, je suis tout seul. Et voilà. Donc, il n'y a pas de différence aujourd'hui. Enfin, tu vois quelqu'un en combinaison de vol dans un meeting, t'es incapable de dire s'il fait de l'avion monoplace ou de l'avion biplace. est incapable de dire si les pilotes ou nos armes. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. L'important, c'est de faire de l'avion de chasse parce que c'est ça qui est incroyable.
Alors, bah, tu es plutôt fan à biplace, si j'ai bien compris. Il y a parfois cette image dans l'imaginaire collectif du pilote de chasse très solo, voire même peut-être égoïste. Donc, dans un escadron, tu dépends pourtant de tout un tas de personnes. Les mécanos, le contrôle aérien, les autres pilotes en mission avec toi, le NOSA, tu viens d'en parler. C'est un vrai travail d'équipe et encore plus à la Patrouille de France où vous vivez ensemble beaucoup de temps quand même. Comment tu vois ton job de ce côté-là en général, pas forcément que dans l'avion, comme quelque chose de plutôt solitaire au final ou un travail en équipe ?
Alors, le solitaire dans l'armée de l'air et de l'espace, ça n'existe pas. Il n'y a jamais une promo de 1. On est toujours plusieurs et comme j'ai dit tout à l'heure, si on est 10 à avoir le niveau, on sera 10 à passer. Par exemple, si on fait un vol, je sais pas, vol de navigation 3 dans le cours de la formation, et ben si on est 10, et ben on va avoir 8 situations différentes parce qu'un vol n'est jamais le même. Donc le fait de discuter avec tes copains de promo fait que ton expérience s'enrichit. Et des cas que toi tu n'as pas vus te sont relatés par ton camarade et du coup ça te ferait progresser aussi. Donc avant même de commencer à parler de mission opérationnelle au sens propre du terme, déjà c'est un travail de groupe. Voilà. Ensuite quand tu arrives en unité, comme tu as dit, il y a toute une partie de soutien avec des secrétaires opérationnels, des marqueurs opérationnels qui habillent tout ça pour que nous on puisse être prévu sur des vols, avoir des zones réservées, avoir des créneaux de ravitaillement en vol réservé. Ensuite, moi je connais rien en mécanique. On a des experts mécaniciens qui connaissent tous les systèmes de l'avion, toute la partie avionique ou électronique, à la partie hydraulique, à la partie armement. Et eux, ils sont irremplaçables. Si eux ne préparent pas l'avion le matin, moi je pourrais pas partir en vol. Voilà. Donc et puis ensuite je décolle, il faut des contrôleurs aériens, il faut des pompiers, il faut des médecins, il y a toute une architecture autour du vol, de la sortie d'un avion de chasse. Donc c'est un travail de groupe complet. Ensuite effectivement, tu parlais de la Patrouille de France. C'est particulier, la Patrouille de France, on est 9 pilotes dans l'équipe et donc on est 8 pilotes plus un remplaçant. Et dans les 8 pilotes, on a chacun notre poste. C'est-à-dire moi je suis intérieur droit. Ça veut dire que toute l'année je vais être intérieur droit. Je vais jamais faire un seul vol d'intérieur gauche. Voilà. Et le remplaçant, lui, a cette charge très difficile de devoir s'entraîner sur tous les postes, sauf celui du leader, donc sur les 7 postes de l'équipe. Donc lui, si on ne lui parle pas, si on ne lui explique pas les petites subtilités, il peut pas progresser au rythme de l'équipe. Donc là, pareil, il y a encore un dialogue très, 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 très soutenu à avoir avec lui. Avec nos mécaniciens, bien sûr, à la Patrouille de France, c'est les mécaniciens qui nous choisissent. C'est le mécanicien qui choisit son pilote pour la saison. Donc la relation de confiance, elle est vraiment entre les deux. Moi, c'est l'adjudant Philippe au mécano et je lui fais une confiance aveugle. Voilà. Et lui, il monte derrière moi et puis on part pour se mettre en place, parfois dans des conditions météo plutôt mauvaises. Et puis il me fait confiance et c'est ça qui est vraiment exaltant. Voilà. Et ensuite, la Patrouille de France, moi, si je fais le meilleur vol de ma vie à la Patrouille de France, dire je suis un vol parfait. Ça n'existe pas, mais imaginons je suis un vol parfait. Si mon homologue, par exemple, l'intérieur gauche, il est un petit peu écarté ou un petit peu rapproché, du coup, on est plus symétrique. Donc, en fait, le vol, vu du public, il n'est pas parfait parce qu'on n'est pas symétrique. Donc, en fait, moi tout seul, mon vol, finalement, il importe peu. C'est le vol de l'équipe qui prime parce que c'est ça qui va ressortir et c'est une belle métaphore du travail de l'armée de l'air.
Cette notion d'équipe qui ressort effectivement souvent, ce dont tu parlais pour la transmission un peu d'expérience ou de savoir entre les personnes, ça me fait penser à un article que j'ai lu récemment sur les bars d'escadron ou les bars d'escadrille ou les bars d'aéroclub aussi, où justement il y avait un pilote qui racontait qu'une fois, en Mirage 2000 au-dessus de l'Afghanistan ou je ne sais plus quel théâtre, il avait eu une panne moteur, quelque chose comme ça. Et c'est justement une discussion au bar de l'escadrille quelques années avant d'une personne qui avait eu le même problème qui lui a fait avoir le bon réflexe au bon moment. Enfin voilà, ça me faisait penser à ça et ça montre que tous ces lieux de transmission d'expérience sont aussi vachement importants quoi.
Exactement, et que tu dans un avion une fois que t'as quelques heures de vol, il suffit de pas beaucoup d'heures de vol pour se rendre compte que le nombre d'occurrences qui peuvent arriver, c'est infini, c'est incapable de tout personne ne peut écrire tout ce qui peut arriver dans un avion. On peut écrire les checklists qui résument les principales pannes, mais le contexte, lui, sera toujours différent. Et le fait, effectivement, comme tu dis, bah, d'avoir quelqu'un qui a vécu la même chose ou qui a vécu la même chose et qui n'a pas du tout fait ce qu'il fallait. Rien que ça, déjà, c'est une expérience de dire « Ok, bah, je sais que je ne dois pas m'engager dans cette voie-là parce que bah, j'arrive à une impasse. » Voilà. Et ça, bah, en fait, c'est ce qui fait que le nombre d'heures de vol, c'est un chiffre. C'est... Ok, c'est palpable, mais ce n'est pas ça qui est important. Quelqu'un qui fait 2500 heures de tour de piste sur son petit aéroclub, il aura une expérience limitée. Voilà. Quelqu'un qui fait 1000 heures de vol un peu partout, etc., c'est lui qui aura vraiment sur des types d'avions différents, c'est lui qui aura vraiment une expérience parce qu'il aura vu des choses différentes, il aura vu des conditions météo différentes, il aura vu des contrôleurs différents, des langues différentes, et c'est ça qui fait la richesse de l'aviation et qui fait que c'est quelque chose de passionné, parce qu'en fait, deux pilotes qui se connaissent pas, ils vont se servir une bière, ils vont se tutoyer, puis ils vont se raconter leurs histoires, et ça va t'intéresser. Voilà. Et je trouve que c'est ça qui est magique dans l'aviation.
Passons maintenant à la patrouille de France. Je commence en mettant directement les pieds dans le plat. Est-ce qu'une patrouille aérienne n'est pas un concept obsolète en 2021, à l'heure où la tendance générale est à la sobriété, à maîtriser sa consommation d'énergie, etc. Ça pourrait paraître un peu en décalage, t'en penses quoi ?
Alors la question est légitime. Maintenant, voilà, les questions environnementales, bah, c'est une préoccupation majeure dans notre société dans absolument tous les domaines. Et bien évidemment, les armées n'échappent pas à cette transition. Le ministère des Armées, au travers de la ministre, a présenté une feuille de route pour construire une défense durable. Voilà, donc avec une prévention des risques environnementaux, une préservation de la biodiversité. Par exemple, le dernier 14 juillet, on a volé avec 5% de carburant biosourcé. Voilà, donc le but c'est d'arriver à terme à avoir, il me semble, en 2030 5% de carburant biosourcé. Donc enfin, diront le ministère des Armées dans cette transition là. Maintenant, on poursuit nos efforts là-dedans, mais à la fin, la réussite opérationnelle, ça reste le critère numéro un, c'est la priorité numéro une. Voilà, on a une mission importante, une mission de protection de la République, de ses territoires, des Français, etc. Et on peut pas risquer de mettre en péril la réussite de la mission sur ces considérations aussi importantes soient-elles. Donc évidemment qu'on fait des efforts là-dedans, tous, comme n'importe quel Français, comme n'importe quel ministère. Mais la priorité numéro une reste quand même la mission opérationnelle. Ensuite, est-ce que c'est obsolète? Mon avis, qui n'engage que moi, c'est que c'est non. C'est non pourquoi? Parce que les choses qu'on nous dit quand on nous voit passer, quand on voit les messages sur les réseaux sociaux, quand... C'est super de voir le drapeau français. On étant le plus grand drapeau français dans le ciel, et qu'on l'a vu, par exemple, quand on a fait la tournée des hôpitaux l'été dernier. Moi, j'ai eu la chance d'emmener Anaïs, qui est aide-soignante dans un hôpital parisien, et rien que ça, de voir son sourire et d'avoir pu partager ce moment et de l'avoir emmené sur les Champs-Élysées pour le défilé du 14 juillet. Voilà, je pense que ça c'est très important pour toute la communauté hospitalière et pour tous les soignants et tous ceux qui gravitent autour de ce monde de la santé. On a survolé les régiments endeuillés en décembre dernier, tous les régiments de l'armée de terre qui ont été endeuillés l'année dernière. Et ben ça met du baume au cœur et c'est un message de soutien à travers nous, de la population française, en tout cas des armées, envers ceux qui donnent leur vie. Donc moi, je pense pas que ce soit obsolète, parce que aujourd'hui, c'est une manière d'être fier de son pays, au même type que quand la France est championne du monde de foot. Voilà, on est fier de son pays, on est fier de son équipe, et aujourd'hui, les armées représentent toute la diversité que la France peut proposer, et une diversité qui réussit. Donc non, je pense que c'est plutôt un sentiment de fierté qu'un sentiment d'obsolescence, à mon avis.
Mais j'espère que toute la beauté et l'espoir que vous transmettez ne deviendront pas obsolètes. Enfin, c'est pas moi qu'il faut convaincre, en tout cas. Alors, je me souviens avoir entendu dans l'excellent film sur la patrouille de France, produit par Airborne Film et sorti en 2013, il me semble, que tous les chefs de patrouille avaient les bases techniques nécessaires pour appréhender le pilotage à la patrouille de France. Mmh. Alors, première question, qu'est-ce qu'un chef de patrouille ? Et deuxième question, si c'est effectivement le cas, Sur quels critères sont sélectionnés les Athos? C'est un nom issu des trois mousquetaires, il me semble, que vous utilisez pour vous nommer.
Exactement, c'est l'indicatif de la patrouille de France. Si un jour vous volez et que vous entendez les Athos, et ben c'est la patrouille de France qui en vole, qui symbolise effectivement les valeurs portées par les mousquetaires. Alors, il y a deux questions dans ta question. La première question, c'est qu'est-ce qu'un chef de patrouille? Dans un escadron opérationnel, il y a une progression. Une progression, ça veut dire que quand on arrive au début, on va dire que schématiquement, on sait décoller, atterrir, voler en formation, naviguer et utiliser un petit peu son système. Et ça fait pas de toi quelqu'un qui peut se projeter en opération extérieure. Donc du coup, il va y avoir une phase de formation. Donc au début, t'es ce qu'on appelle pilote de combat. Et ta qualification, c'est PC, pilote de combat. Pendant un an, on va te former pour pouvoir faire la mission principale de ton avion. Donc, si on prend l'exemple du Rafale biplace, et ben c'est être capable d'assurer la posture de dissuasion nucléaire, d'être capable de prendre la posture permanente de sûreté, donc la police du ciel, et être capable de partir en opération extérieure. Voilà. Une fois que tu as ces acquis, ces fondamentaux, ben tu passes des vols de qualification qui te donnent la qualification de pilote de combat opérationnel. Voilà. En raccourci, on appelle ça un PO. Ça veut dire que tu peux partir en tant qu'équipier sur une mission opérationnelle. Qui dit équipier dit forcément leader. Et ben ça, c'est l'objectif de la deuxième qualification, qui est la qualification de sous-chef de patrouille. Donc pareil, tu vas mûrir pendant un an dans ta qualification de PCO. Et à l'issue, ben, tu repasses une phase d'entraînement spécifique et puis des vols de qualification qui t'amènent à la qualification de sous-chef de patrouille. À partir de cette qualification, ben, tu peux emmener un équipier, qu'il soit PC ou PCO. Et puis ensuite, la dernière qualification, c'est chef de patrouille. Donc c'est emmener 4 avions ou plus sur une mission de guerre. Donc ça demande vraiment un recul tactique beaucoup plus important et une gestion du vol, on va dire, qui est un peu plus globale. Donc c'est une qualification qui est vraiment compliquée, surtout sur un avion comme le Rafale qui fait absolument toutes les missions, parce que tu es chef de patrouille pour toutes les missions, aussi bien du bombardement que de l'assaut, que du soutien ce qu'on appelle le close air support, donc du soutien aux forces terrestres, que de les missions de défense aérienne. Voilà, t'es vraiment chef de patrouille sur toutes ces missions, donc ça demande d'être un expert dans toutes ces missions. Et une fois que t'es chef de patrouille, ben t'es tout en haut de la montagne des qualifications. Ça veut pas dire que tu progresses plus, hein. Il te reste encore après plein de labels à passer pour être mission commander. Ça veut dire gérer un raid de plusieurs dizaines d'avions et l'organiser. Voilà. Et puis ensuite, ben, tu progresses, comme on a parlé d'expérience tout à l'heure, où tous les jours tu progresses, hein, dans un avion. Donc voilà. Mais une fois que t'es CP, t'es chef de patrouille, t'es tout en haut, et donc tu rediffuses toutes tes connaissances. Ensuite, tu ne fais que former les autres pour les amener à ce niveau de chef de patrouille. Et donc, la patrouille de France, effectivement, ne recrute que des chefs de patrouille, parce qu'on demande une certaine expérience, en l'occurrence 1500 heures, et cette qualification pour pouvoir postuler à la patrouille de France. Il n'y a pas de vol test pour la patrouille de France, parce qu'effectivement, on a tous subi la même formation. On a tous suivi exactement la même formation dans les écoles, et ensuite, dans nos escadrons, on est tous passés PCO, puis sous CP, sous-chef de patrouille, puis CP, chef de patrouille. Donc on a tous subi les mêmes choses, avec des expériences différentes, entre ceux qui ont fait par exemple du Mirage 2000-5 qui n'ont fait que de la défense aérienne, ceux qui ont fait du Mirage 2000D qui n'ont fait que de l'assaut et de la mission air-sol, ou ceux du Rafale qui ont fait un panel un peu plus large. Mais malgré tout, on a tous la même base humaine et technique. Et c'est justement ce sur quoi est basée la sélection de la patrouille de France, c'est l'humain. On a parlé tout à l'heure d'équipe, on est 9, on vit de 7h55 à 18h30, on vit tous les 9, tout le temps ensemble. Le seul moment où on n'est pas ensemble, c'est quand on est dans l'avion. Donc on est à 3 mètres les uns des autres, quoi. Mais voilà, en gros, donc la journée, c'est ça. Donc en fait, tout est basé sur l'humain, sur plusieurs critères. La première, c'est est-ce que tout chef de patrouille que tu sois, quel que soit tes 1500, 2000, 2500 heures de vol, 3000 heures de vol, est-ce que tu te remettras en question pour apprendre à piloter selon la technique de la patrouille de France? C'est-à-dire que tu sais juste que pour l'instant, tu ne sais rien. Donc, on va te réapprendre tout, hein, à rouler, enfin, à rouler un avion. Hein, c'est le truc, en 3 vols, c'est maîtrisé sur ton premier avion. Bah, là, on va te réapprendre à rouler en patrouille. Et puis ensuite, bah, faire le premier mois de vol, c'est faire un virage à droite, faire un virage à gauche, faire une boucle, faire un tonneau, enfin, toutes ces figures de base, et bah, tout ça, bah, on va te le réapprendre. Donc, est-ce que tu es capable de te remettre en question? La deuxième, c'est est-ce que tu es capable de t'intégrer dans une équipe et de travailler en équipe? Ça veut dire de faire ton travail, déjà, parce que bah, on est 9 et on a toute une équipe à faire avancer. Donc on a chacun une cellule avec chacun un travail spécifique. Donc est-ce que quelqu'un est obligé de t'aider tout le temps pour ton travail, ou est-ce que tu peux être autonome? Donc ça, est-ce que tu sais travailler? Et ensuite, est-ce que tu acceptes le travail des autres et de tes collègues parce que tu sais qu'il sera bien fait. Voilà. Et ça, donc, c'est vraiment un critère de performance, d'humain et de sociabilité, j'ai envie de dire. Voilà. Mais c'est en ça que c'est une sélection très très dure, parce que on peut la préparer, mais on peut pas la travailler. Voilà. On peut pas dire je suis prêt, parce qu'en fait, c'est des critères comportementaux, c'est des critères d'humain, c'est des critères de psychologie qui sont que tu peux pas. Si c'était des vols de voltige, ben tu vas faire de la voltige, tu t'entraînes comme un fou et puis tu vas progresser. Si c'était des intégrales triples, ben tu prends un bouquin de maths, tu fais des intégrales triples, puis tu vas progresser. Là, c'est vraiment de l'humain, mais c'est tellement important parce qu'on passe toute l'année ensemble. On se voit plus, je vois plus l'équipe de la Patrouille de France cette année que ma famille, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Mais ça fait de ça du coup une très belle sélection.
Donc en gros, ceux qui sont à la Patrouille de France, c'est tous les chefs de patrouille sympas, quoi.
non, pas forcément. Enfin, oui, si. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Non. Alors, sympa, c'est subjectif. Hein. Tes meilleurs amis seront peut-être pas mes meilleurs amis. Et donc du coup voilà, sympa c'est subjectif, mais non, c'est ceux qui évidemment on s'entend très bien, parce que on a la chance de pouvoir choisir nos collègues de travail, c'est quand même une chance absolument incroyable, mais non oui, on s'entend très bien, ils sont forcément sympas, mais ils ont également d'autres critères de performance au travail, de capacité à prendre sur soi malgré le stress, malgré la fatigue, malgré la pression, voilà, d'être capable de donner le meilleur d'eux-mêmes en toutes circonstances, et voilà, donc non, c'est quelque chose, tout se fait pas à la sélection, hein. Dire, on arrive tous avec, il faut avoir 1500 heures de vol d'être chef de patrouille, ça veut dire qu'on a tous au moins 15 ans d'armée, dont 8 ans ou 10 ans d'escadron de chasse derrière nous, donc on est nombreux, mais on n'est pas si nombreux que ça, donc ça veut dire que tu connais forcément quelqu'un qui connaît le mec. Donc quand cette personne se présente à la Patrouille de France, si je le connais pas, si j'ai pas travaillé avec, ben je vais faire appel à un ami et puis je vais avoir des infos sur lui, etc. Donc voilà. Mais ensuite la journée de sélection que passent les candidats à la Patrouille de France, elle est très importante, parce que ben c'est une journée où ils sont intégrés à l'équipe, c'est-à-dire qu'ils font le même programme quotidien que nous, et on voit comment ils se comportent, comment ça match avec l'équipe, parce que ils vont intégrer l'équipe. Sur les 9 personnes que compose l'équipe, ils travailleront avec 6 d'entre eux. Parce que tous les ans, il y en a 3 qui partent et 3 nouveaux qui arrivent. Donc voilà, c'est vraiment une alchimie à trouver entre les 6 membres de l'équipe qui vont rester et les 3 nouveaux membres de l'équipe qui intègrent la Patrouille de France chaque année.
Juste, je reviens sur une petite question qui m'est venue pendant que tu parlais tout à l'heure du fait que vous réappreniez à piloter en quelque sorte avec la méthode de la Patrouille de France. Alors, bon, j'imagine que c'est compliqué à expliquer comme ça avec des mots, mais qu'est-ce qui change entre piloter un Rafale et piloter un Alpha Jet à la Patrouille de France ?
Alors, mon avis, c'est que piloter, c'est pas excessivement compliqué. C'est-à-dire, tu prends ta main et ton nez de l'avion, il va suivre ta main. Tu tires, ça monte, tu pousses, ça descend, tu vas à gauche, ça tourne à gauche, tu vas à droite, ça tourne à droite. En aéroclub, on ne demande pas des compétences particulières pour piloter, l'acte vraiment technique en lui-même. Ce qui est compliqué dans un avion, c'est de gérer l'environnement, c'est de parler à la radio tout en sachant où tu es, tout en comprenant les zones, comment elles sont imbriquées pour ne pas rentrer dans une zone interdite, etc. C'est ça notre métier. En tout cas, dans l'aéronautique, c'est ça. Piloter un Rafale avec les commandes de vol électriques, avec toutes les aides, c'est quelque chose de pas si compliqué ça techniquement. Ce qui est compliqué, c'est de gérer mon Rafale et mon équipier, par exemple dans une patrouille ou deux, pour remplir une mission face à des ennemis avec un avion qui avance à 900 km/h. Donc, ça veut dire que les décisions, elles doivent venir. C'est ça qui est compliqué. Donc, piloter, c'est pas vraiment ça. À la Patrouille de France, piloter, ça devient presque l'objectif de la mission. Sur un Rafale, piloter, c'est un moyen de faire ma mission. À la Patrouille de France, ça devient l'objectif. Et donc, du coup, la technique, elle est complètement différente. Pourquoi ? On a un avion référence qui est le leader. Ça veut dire que tous les équipiers, de l'intérieur qui est à côté de lui, au solo qui est derrière, ou à l'extérieur qui est complètement sur le côté de la patrouille, on a tous nos repères sur le leader. Quand le leader, par exemple, va faire une boucle, c'est-à-dire qu'il va partir dans le plan vertical pour faire un rond, une boucle, ou il tire sur le manche, donc dans ce cas, la gouverne de profondeur se braque, et puis l'avion, il monte, et puis il finit par tourner, puis faire une boucle. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on doit tous piloter exactement, parfaitement comme le leader. Pas facile. Donc du coup, on utilise ce qu'on appelle le trim. Le trim, c'est quoi ? C'est C'est un peu un petit accessoire qu'il y a sur quasiment tous les avions, même sur les avions d'aéroclub, qui permet d'annuler l'effort à la profondeur. En fonction de la vitesse où on va, bah, l'avion il a tendance à plus ou moins monter. Et donc, pour pas passer deux heures à pousser sur le manche ou à tirer sur le manche pour maintenir le palier, bah, on va trimmer, ce qu'on appelle trimmer son avion pour qu'il vole tout droit. Et bien, bah, en fait, à la Patrouille de France, on utilise ce trim pour piloter. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il me serve à annuler l'effort au manche, il va me servir à actionner ma gouverne. Et donc, du coup, si vous avez la chance, bah, par exemple, dans le film dont tu parlais tout à l'heure, d'entendre le leader parler, quand il va dire cadence, cadence bien, cadence encore, et bah, chaque fois qu'il dit cadence, c'est un coup de trim qu'on met vers l'arrière. Quand il dit je rends du trim, et bah, il remet trois coups de trim vers l'avant. Donc, c'est comme s'il mettait trois petits coups de trim vers l'avant, donc la gouverne va se mettre à piquer, donc on va ou stabiliser la montée ou descendre. Voilà. Et donc, du coup, tout est fait comme ça. Et alors que, donc ça, on n'a jamais piloté comme ça. Et donc, du coup, tout ça, bah, il faut l'apprendre parce que, bah, on ne pilote plus aux yeux, on pilote à l'oreille. Ça veut dire quand le leader va annoncer une action, quand il va dire cadence, bah, moi, je vais appuyer, de manière instinctive sur le trim. Alors que j'ai pas vu son avion bouger encore. Quand il va dire virage à droite, j'incline, bah, je vais incliner à droite alors que j'ai pas vu son avion bouger. Et donc, du coup, voilà, on pilote à l'oreille et nos mains réagissent à nos oreilles. Ça, donc, c'est ça qui est très particulier. Et la Patrouille de France, on commence l'entraînement hivernal début novembre. Et début mai, on doit présenter notre travail au chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace qui valide notre démo. Donc on a 6 mois pour partir de virage à droite, virage à gauche, à une démo complète de 20 minutes. Donc c'est en ça que la progression, ça va très vite. Voilà, c'est un TGV, hein, ça va très très vite. Et c'est ça qui est très compliqué et très exigeant techniquement à la Patrouille de France. C'est qu'on doit oublier tout ce qu'on sait faire. Garder notre recul, c'est pour ça qu'on prend des chefs de patrouille, garder notre expérience, garder notre recul, mais ensuite se fier au bouquin de cours, enfin, il y a un bouquin de cours qu'on lit et qu'on apprend par cœur pour savoir comment on fait, puis surtout à la transmission orale. Voilà, les deuxièmes années étaient l'année dernière à notre poste. Voilà, donc moi je suis numéro 2 et derrière moi j'ai le numéro 6 et le numéro 8 qui étaient intérieurs quand l'année dernière, et donc du coup, chaque fois qu'il y a une difficulté, bah, eux viennent me dire, bah, voilà, moi, je faisais comme ça, attention de pas te faire avoir là-dessus, ça, c'est une petite spécificité, regarde, tu peux faire comme ça. Et c'est comme ça qu'on progresse, encore une fois, en équipe, on revient toujours au même, hein. Voilà, c'est en équipe que ça progresse, parce qu'on veut tous être prêts début mai, parce qu'on présente le travail de la Patrouille de France.
C'est vrai que piloter à l'oreille dans le civil et même, j'imagine, ailleurs qu'à la Patrouille de France, d'une manière générale, ça paraît pas très intuitif, mais beaucoup de boulot pour que ça marche.
C'est exactement ça, parce que si on veut voir tous les avions inclinés en même temps, ben, le temps que ton œil détecte que l'avion du leader bouge, que ton cerveau commande à ta main de bouger l'avion, ben, forcément, il y aura un petit décalage. Donc l'avion qui est extérieur, ben, il a un double décalage. Et donc voilà, du coup, non, c'est vraiment, il faut accepter de... Moi, je suis à droite, donc quand le leader dit virage à gauche, j'incline, mais je gauchis vers lui, je suis à 2 mètres de lui ou à 3 mètres de lui, mais je gauchis vers lui, alors que son avion n'a pas encore commencé à bouger.
Voilà, donc c'est... De la confiance aussi qu'il faut.
Exactement.
Il va gauchir à ce moment-là.
Exactement, c'est exactement ça.
Alors, j'ai une question qui m'est venue un peu au dernier moment en préparant cet épisode. Quand tu intègres la Patrouille de France, tu deviens du jour au lendemain presque relativement connu. Tu acquiers une certaine notoriété, notamment dans le monde aéronautique. Les pilotes de chasse et les militaires, plus généralement, essayent plutôt de faire profil bas pour ne pas risquer d'être identifiés par d'éventuels ennemis de la France. Mmh. Comment tu appréhendes personnellement ou comment appréhende l'armée de l'air en général, l'armée de l'air et de l'espace, pardon, en général, ce risque potentiel supplémentaire?
Alors, effectivement, on a un souci de confidentialité, une exigence de confidentialité quand on fait partie des forces de combat, hein, dans les escadrons opérationnels. Être pilote à la Patrouille de France, ça veut dire être ambassadeur de l'armée de l'air et de l'espace. Donc on sait qu'on va s'exposer. Pour autant, mon nom n'est pas donné. Comme tu as dit, je suis le capitaine Grégory, donc on se limite au prénom. Mais voilà, ça fait partie du job. Après, voilà, la Patrouille de France, encore une fois, c'est quelque chose de particulier. Je pense qu'aujourd'hui, je suis invité, tu m'as invité pour parler parce que je suis pilote à la Patrouille de France. Dans 4 ans, tu te rappelleras peut-être plus mon prénom. Mais la Patrouille de France, elle restera là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je ne suis que de passage à la Patrouille de France. Je sers la Patrouille de France et la Patrouille de France, elle va perdurer après moi. Donc oui, il y a une notoriété, mais elle est quand même très, très éphémère. Et c'est aucun pilote de la patrouille de France n'est venu chercher de la notoriété en passant la patrouille de France. On est tous venus chercher une expérience aéronautique unique, une expérience humaine unique. Voilà, la notoriété, elle est vraiment très éphémère.
Alors, autre question donc sur la patrouille de France. On sait par exemple que les postes de leader et de charognard, qui est donc le futur leader, sont réservés au direct, c'est-à-dire se passer principalement par les classes préparatoires et ensuite qui ont fait l'école de l'air. Quelles sont les différences entre les EOPN ou OSCPN, il me semble maintenant, et les directs quand on intègre la patrouille de France?
Alors, quand on intègre la patrouille de France, effectivement, on a deux recrutements. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure qu'on était 9 pilotes à la patrouille de France. Dedans, comme tu l'as dit, il y a deux, ce qu'on appelle direct. Donc, c'est deux pilotes qui ont fait, qui sont passés par l'école de l'air, qui sont donc officiers de carrière dans l'armée de l'air, et 7 officiers sous contrat, qui sont donc sous contrat dans l'armée de l'air. Et donc, du coup, sur ces 9 pilotes, à la fin de l'année, il y a le leader et deux équipiers qui quittent la patrouille. Et on intègre le futur charognard et deux équipiers. Donc chaque année, il y a un direct et deux officiers sous contrat qui rentrent à la patrouille. Donc ça fait l'objet de deux sélections différentes, parce que le vivier de candidats est différent. Une fois passé ce step-là, le charognard aujourd'hui est un équipier comme moi. Un équipier particulier parce qu'il partage le bureau avec le leader et dans 8 mois, on est en janvier, ouais, donc dans 10 mois, il sera à son tour leader de la patrouille de France. Donc c'est un poste d'équipier particulier, mais aujourd'hui il est équipier comme moi, avec ses tâches à faire, etc. Voilà, mais ça, donc notre vie au charognard et à moi, aujourd'hui on a la même vie. Voilà, on a la même vie, on a des responsabilités différentes au sein de l'équipe, en termes de travail de cellule, en termes de responsabilité, mais on est équipier et on sert notre leader et on sert la patrouille de France. Demain il sera leader et moi je serai toujours équipier, mais voilà, ça se passe comme ça. Donc il n'y a aucune différence si ce n'est que le leader c'est le chef, c'est le maître, le chef d'orchestre, et voilà. Mais non, ça, entre nous, il y a la notion de hiérarchie, elle est tacite, elle est implicite. On n'a pas besoin de se la rappeler, on n'a pas besoin de regarder nos numéros. Je sais que les troisièmes années drive, on va dire, l'équipe. Les deuxièmes années sont là pour nous aider et puis préparer leur année de troisième année. Les premières années sont là pour apprendre et supporter au maximum toute la partie, on va dire, logistique de gestion de l'équipe. Et ça marche comme ça, et on n'a pas besoin de se le rappeler tous les jours parce qu'on le sait, et ça marche comme ça.
Ça roule, quoi, tout le monde sait ce qu'il a à faire.
Exactement, exactement.
Cet épisode est enregistré en janvier 2021, pour donner un peu de contexte. Comment s'est passée cette saison très particulière à cause de la crise sanitaire?
Oui, alors c'était particulier à plusieurs titres. Alors nous, pendant le premier confinement, donc il y a un peu moins d'un an, on était confinés, comme tout le monde. Donc on a arrêté du jour au lendemain notre entraînement. On continue à travailler de manière individuelle chez soi. Notre super prof de sport a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Atosport, sur laquelle il nous donne notre programme quotidien pour maintenir l'entraînement. Et puis nous, on travaillait, on faisait ce qu'on appelle la musique. Peut-être qu'on en parlera après, mais c'est la petite phase de mentalisation qu'on fait avant le vol pour garder la démo en tête, etc. Puis on continue à travailler sur nos dossiers de fond, mais depuis la maison. Deuxième confinement, on a pu continuer les vols avec évidemment les gestes barrières et toutes les contraintes sanitaires que tout le monde connaissait. Et là, l'équipe s'est posé la question en disant, les meetings, ça a quand même peu de chances de se produire cette année. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les Français, pour apporter notre pierre à l'édifice, pour soutenir tous les médecins, tous les soignants qui combattent tous les jours. Et du coup, on a proposé cette idée à l'Armée de l'air et de l'espace de faire une tournée de survol des hôpitaux. Qu'on a pu faire du coup à l'issue du 14 juillet. Voilà, donc on a pu faire malgré tout quelques engagements. On a pu accompagner le président de la République au Liban en septembre dernier. On a pu faire cette tournée des régiments endeuillés de l'armée de terre en décembre dernier, qui sont des choses importantes pour nous, de rendre hommage à nos frères d'armes qui sont tombés. On a pu participer au départ du Vendée Globe. Enfin voilà, donc on a malgré tout pu avoir quelques engagements. Et on a eu cette décision assez particulière de geler l'équipe, c'est-à-dire comme j'expliquais qu'il y a un roulement par tiers chaque année, et l'équipe 2021 est exactement la même que l'équipe 2020. Voilà, on a n'a pas fait de roulement parce que toute cette saison un peu blanche pour laquelle on n'a pas fait de meeting fait qu'on n'a pas pris assez d'expérience en tant qu'équipe pour se permettre de laisser partir nos trois pilotes les plus expérimentés et récupérer trois nouveaux pilotes. Voilà, donc cette année a été particulière. On était de loin pas les plus à plaindre, hein. Clairement, on était moins au front que de nombreux de nos compatriotes. Donc on a essayé de faire au mieux pour les soutenir à travers nos réseaux sociaux, à travers nos survols, pour qu'ils gardent du baume au cœur et voilà. Puis on espère tous qu'on va s'en sortir vite et qu'on pourra revenir au contact des Français en début de saison prochaine.
J'espère pouvoir vous voir dans les meetings qui devraient commencer, j'espère, dans quelques mois.
Exactement.
On peut toujours croiser les doigts. Alors, petite anecdote rigolote. Enfin, j'ai entendu dire, tu me diras si je me trompe, que vous arrivez en voiture le matin sur le parking de la Patrouille de France, les uns à côté des autres, et que vous attendiez, alors tu as parlé de 7h55 tout à l'heure, moi j'ai l'info 8h, bon je sais pas, pour ouvrir vos portières en même temps. Alors, première question, pourquoi ? Et ensuite, en attendant, tu fais quoi ? T'écoutes de la musique, la radio, peut-être un jour un épisode de l'expérience Shiban ?
Exactement, c'est exactement ce que je fais. J'écoute un podcast ou j'écoute la radio. Alors, effectivement, ça peut paraître très bizarre au début, mais c'est quelque chose, je pense, que j'appliquerai une fois sorti de la Patrouille de France. D'abord, je partais d'abord du côté individuel pour ensuite finir sur le côté équipe. Le côté individuel, c'est presque le seul moment de la journée où tu as un moment pour toi. C'est-à-dire, on ouvre effectivement les portières à 7h55. C'est-à-dire que si tu arrives à 7h45 ou à 7h52, tu as 10 minutes ou 3 minutes pour toi. Tu sais que tu n'as rien à faire. Donc, tu peux ne plus avoir un bruit, écouter la radio, ou faire autre chose, ou envoyer des textos, ou jouer à Candy Crush, ou ce que tu veux. Mais ce moment, il est pour toi. Et ça, bon, tu descendais de ta voiture, tu allais bosser, tu retrouvais tes collègues. Quand tu partais, tu rentrais bien dans ta voiture, tu rentrais chez toi, tu avais ta femme, tes enfants, il fallait faire des trucs, puis ensuite tu manges, puis ensuite tu te couches. Enfin, il n'y a pas un moment où tu te poses. Et bien là, ce moment-là, il est pour toi. Donc, ça, c'est quand même. Donc, ça, je pense que je continuerai à le faire après la Patrouille de France, c'est-à-dire arriver peut-être 5 minutes plus tôt au boulot, mais rester 5 minutes dans ma voiture pour moi. Et ensuite, le côté équipe, c'est la première des. Une valeur déjà, c'est que c'est la ponctualité. Voilà. Toute l'équipe est là à 7h55. Ça veut dire que si quelqu'un arrive à 7h56, il fait déjà porter à l'équipe la responsabilité de son propre retard. Et du coup, il met en retard toute l'équipe. Donc, du coup, là, c'est juste une marque de respect envers nos camarades que d'être à l'heure pour commencer tous la journée ensemble. Et effectivement, quand on arrive sur le parking, y en a certains qui sont déjà garés, on se fait un petit coucou, mais chacun est dans sa petite bulle, dans son petit coin. Et à 7h55, on a tous la banane et la patate pour aller faire notre réveil musculaire avec notre prof de sport. Et voilà. Donc, maintenant, moi, je vous conseille vraiment d'essayer pour ceux qui sont pas en télétravail, qui vont travailler en présentiel, de juste rester 2 minutes dans votre voiture à rien faire. Voilà. Ou si vous venez en transport en commun, sur un banc, vous asseyez, vous profitez. Et voilà, et c'est vraiment agréable.
Est-ce que tu as des petits conseils? Alors, c'est une question un peu plus vague, mais qui reprend un peu cette idée-là, prendre du temps pour soi. Est-ce que tu as des petits conseils basés sur ton quotidien de performeur, finalement, pour mieux gérer son temps, arriver à mieux se concentrer, quand même garder du temps pour soi? Tu parlais aussi tout à l'heure de la musique pour arriver à se concentrer, peut-être à se mentaliser une situation. Ouais. Bon, voilà. Est-ce que tu aurais des conseils que monsieur tout le monde ou madame tout le monde pourrait appliquer dans sa vie au quotidien?
Alors, si on prend l'exemple de la Patrouille de France, effectivement, notre journée est ultra rythmée. On commence à 7h55, comme on vient de le voir, par du sport, qu'on arrête à 8h23 pour pouvoir partir rapidement dans le bâtiment de la Patrouille de France. On va se changer parce qu'on briefe à 8h45 pour décoller à 9h23, pour arriver à 9h30 au début de notre zone près d'Orange, sur le terrain de Plan de Dieu. On revient, on va débriefer, on mange un petit casse-côte, on rebriefe. Donc on finit de débriefer généralement vers 11h40, on rebriefe à 11h45 ou 11h50. On va ensuite redécoller à 12h30 pour notre créneau d'entraînement à Salon. On se pose à 13h30, le temps de retourner à la Patrouille de France, d'enlever son pantalon en tigé, on va manger. Quand on revient, on débriefe le vol. Et ensuite, il est 15h50 et à 16h, on a notre deuxième séance de sport. En fait, de 7h55 et puis jusqu'à 17h à la fin de la deuxième séance de sport, bah, ça a été à 100 à l'heure. Mais d'un autre côté, eh ben, on n'est pas plus fatigué qu'une journée à boire des cafés, à tourner en rond, à faire un seul vol dans la journée, etc. Bien au contraire. En fait, on est dans un rythme qui est exigeant, qui est fatigant au début parce que on n'est pas habitué, mais qui très rapidement fait que on se rend compte qu'on est plus performant quand on fait ces deux séances de sport et ces deux vols dans la journée que si on fait qu'une seule séance de sport et qu'un seul vol. C'est paradoxal, hein. Mais plus on en fait et plus on est performant. Et plus à la fin, bah, on a de la bonne fatigue. Clairement, il m'est pas venu à l'idée à 22h30 d'allumer Netflix et de me regarder une série parce que bah, je suis fatigué de ma journée. Mais voilà, donc ça, c'est une première méthode, c'est effectivement de rythmer sa journée et de s'y tenir. Voilà, de pas tolérer de prendre le moindre retard parce que bah, dans un planning comme le nôtre, tu peux être sûr que si tu sors en retard en sport de 3 minutes, et ben bah, après les deux vols, tu arriveras au mess en retard de 3 minutes. C'est irrécupérable. Voilà, donc et ça c'est du vérifier, hein. c'est vraiment vrai, tu rattrapes jamais le retard. Mais d'un autre côté, du coup, on est performant parce que on sait que à telle heure, bah, s'arrête tel événement pour enchaîner sur le suivant.
Vous avez un peu craqué le code de la productivité. Vous arrivez à mettre autant de choses dans une journée, c'est assez impressionnant.
Et que ça marche, enfin et que ça marche et que c'est une des clés de notre progression pendant tout l'hiver de faire ça. Voilà. La deuxième, bon, bah, ça semble évident, hein, mais c'est une hygiène de vie. Hein, j'ai 36, bientôt 37 ans. Hein, j'aimerais avoir le coffre pour aller en boîte tous les week-ends, mais malheureusement, c'est pas le cas. Mais maintenant, voilà, c'est une certaine hygiène de vie pour pouvoir se reposer, être en forme le lendemain. Et ensuite, bah, la mentalisation. Alors ça, c'est vrai que c'est des choses que finalement, tous les grands sportifs font, quand on prend quelqu'un qui fait de la descente à ski ou de la Formule 1 ou du bobsleigh, il y a une phase où on se projette pour activer sur le court terme notre cerveau sur des actions qui doivent être plus ou moins réflexes. Donc ça va être de la manière de faire une boucle jusqu'aux procédures d'urgence en cas de panne au décollage. Mais tout ça, ça fait partie des choses qui permettent, eh ben, quand on est dans l'avion, d'être dans le match tout de suite parce que c'est quelque chose qui est dit d'ailleurs dans le film hein, dont tu parlais là, que ben, ça commence dès le roulage. En fait, t'as beau ne rien connaître à l'aéronautique, quand tu vois 8 avions qui roulent les uns derrière les autres, si l'écart entre les avions n'est pas le même, tu vas le voir. Voilà. Donc en fait, dès le roulage, dès le moment où tu sors des cales, et ben, en fait, tu dois déjà être dans le match. Tu peux pas être 10 mètres en retrait ou 5 mètres en retrait, etc. Donc du coup, c'est conditionné par un briefing qui est toujours le même, avec les interlocuteurs qui sont toujours le même. C'est toujours le premier solo qui va donner le numéro des avions. C'est toujours le second solo qui va donner la météo. C'est toujours être l'extérieur droit qui va donner l'activation des zones, etc. Donc tout ça fait que ben c'est tous les jours pareil. Donc on sait exactement à quoi se raccrocher et ça nous met dans une sorte de petit train-train. Mais il faut surtout voir ça comme un côté péjoratif, un petit train-train quotidien qui fait que tu sais exactement où t'en es tout le temps. Et ça, j'étais pas un adepte hein, avant la Patrouille de France, j'y croyais pas des masses. Alors j'avais mes petits tics, hein, mes petits trucs, mais poussé à ce point, j'étais pas un convaincu. Et là, au bout de 15 mois de Patrouille de France, je m'imagine pas vivre une journée à Patrouille de France différente de ça, une journée hivernale différente de ça.
Tu parlais au début dans ta formation du fait que tu as fait du TB30 Epsilon, de l'Alpha Jet ensuite. Alors aujourd'hui, est en train d'être remplacée un petit peu. Enfin, ces avions-là sont en train d'être remplacés par le PC-21. Alors, quid du futur de l'Alpha Jet à la Patrouille de France? L'avion est quand même là depuis 1981, mais en même temps, si on met le PC-21 à la place, on perd l'aspect jet, l'aspect réacteur, donc on perd un peu en classe. Bon, qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce qui va se passer?
Alors oui, effectivement, cette année, on fête les 40 ans de l'Alpha Jet à la Patrouille de France. Hein. C'est un avion qui remplit toujours aussi bien sa mission. Hein. C'est un avion qui est vraiment... Il est léger, mais puissant, maniable, robuste. Et il est vraiment très très bien adapté à ce qu'on fait. Alors moi j'ai jamais entendu que le PC-21 allait remplacer l'Alpha Jet à la Patrouille de France. Que c'est juste et que l'armée de l'air et de l'espace a donné l'Alpha Jet jusqu'en 2035 à la Patrouille de France. En 2035, ça laisse encore une petite quinzaine d'années, donc ça laisse autant de voir le temps de voir à nos industriels et à notre chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace pour décider de ça. Mais non, aujourd'hui, pour l'instant, la Flatjet, c'est encore la patrouille de France. Et moi, j'ai jamais entendu que le PC-21 venait prendre la suite.
Ouf. Enfin, je pense que pas mal de passionnés de la patrouille de France sont soulagés par ce que tu viens de dire. Vu du sol, ce que vous faites est absolument merveilleux. Il n'y a pas grand monde qui pourra dire le contraire. On peut presque dire que le temps s'arrête pendant une démonstration de la patrouille de France, surtout avec la musique et le bruit des réacteurs, j'en parlais à l'instant. Mais quand tu es assis dans ton avion, on s'imagine que c'est une toute autre histoire. Et il faut une grande concentration et tu vas flirter un petit peu avec les limites. Enfin, c'est pas forcément commun ou normal de voler aussi près les uns des autres. Est-ce que tu t'es déjà fait peur ?
Peur, non. Non. Après, clairement, c'est quand on voit la patrouille vue du sol, on se dit bon, ça bouge pas, c'est super, ils sont ultra stables et tout. Bon, maintenant qu'il y a des GoPros, on peut arriver à voir que c'est un vrai combat dans l'avion. Hein. C'est une bataille de tous les instants parce que chaque petite, je parlais tout à l'heure de dissymétrie entre par exemple l'aile gauche et l'aile droite. Mais ça peut être moi qui, si je suis instable, et ben je vais rendre encore plus instable mon extérieur droit et mon second solo qui seront juste situés à ma droite et derrière moi. Donc non, c'est vraiment un vrai combat tout le temps, hein, et dès le roulage j'en parlais. Après c'est vrai que c'est particulier, hein, de faire de la voltige en patrouille serrée à 8 avions avec parfois 30 nœuds de Mistral avec des turbulences, etc. Maintenant voilà, on profite la patrouille de France dans sa 68e année, donc on a 67 ans d'expérience à la patrouille de France, on a 40 ans d'expérience sur Alpha Jet, donc on a de l'expérience, on a la transmission de nos anciens qui nous permet de nous aider là-dedans pour vraiment occulter au maximum le risque. On fait un métier dangereux, certes, mais comme tous les pilotes de chasse, en revanche, la maîtrise du risque prime sur toute autre considération. Ça veut dire, si on trouvait la figure qui est juste le graal de la figure aérienne, qui est magnifique, dans lequel il y a une part de risque, dans lequel il y a un endroit où il n'y a pas de porte de sortie, si on a une panne moteur, et ben on la fera pas. On la fera pas parce que rien ne vaut la perte d'un pilote et d'un avion. Donc la sécurité des vols, c'est vraiment notre première préoccupation, mais comme dans toute mission aérienne, hein, c'est la même chose pour un Rafale, c'est la même chose pour un A400M, c'est la même chose pour un MRTT. Le but, c'est de ramener l'avion et l'équipage sain et sauf à la base. Donc voilà, maintenant, effectivement, on est à 8. Il y a des phases où on va découvrir des nouvelles figures, etc. Donc malgré un gros travail au sol, malgré un briefing, et ben ça reste l'acquisition d'un geste. La patrouille de France, quand on fait une barrique les uns à côté des autres, et ben c'est un geste à acquérir où on a des vitesses de rapprochement qui peuvent être parfois élevées, mais on y va petit à petit. On commence pas tout de suite par la plus grosse figure, hein, comme tu dis. On commence par faire des virages à droite, et quand les virages à droite et les virages à gauche sont maîtrisés, ben on passe sur des oreilles, puis quand c'est maîtrisé, on passe sur des tonneaux, etc., etc. Donc on y va progressivement parce que le but, ben c'est de faire ça dans la manière le plus safe possible.
Alors une constante dans l'expérience Shiban, on essaie de rajouter ce segment à la fin de chaque podcast où tu nous racontes des moments sympas ou instructifs en vol, comme tu pourrais nous raconter si on était ensemble au bar d'un aéroclub. Juste un moment pour nous faire un petit peu rêver, parce que tu as quand même une carrière où tu as dû vivre des moments sympas, j'imagine.
Ouais. Il y a un vol de 2 heures, je prends l'exemple d'un vol en Rafale, un vol de 2 heures, et je vais bosser 1 heure à fond, 1h59 et 30 secondes, et je vais avoir 30 secondes, qui peuvent être un coup 5 secondes, un coup 15, un coup 10 et un coup 5 de nouveau. Mais ça va être quelque chose où on va avoir un moment, la vue du Mont Ventoux qui est enneigé, par exemple, ou une petite phase de stabilisation juste au-dessus des nuages, on a l'impression de surfer sur les nuages. Voilà, donc c'est plus des petits moments comme ça qui nous restent. Moi, j'ai cette image au retour d'une mission où on revenait se poser en Crète, au lever du soleil. En fait, on voyait le soleil se lever sur les montagnes Crète. Voilà, ça c'est des moments magnifiques, hein, où une mission je sais pas s'il s'en rappelle, probablement j'étais avec un jeune navigateur officier système d'armes, hein, qui aujourd'hui aujourd'hui est commandant d'escadron, d'un escadron de rafale, qui s'appelle Damien, et on était à Abu Dhabi, donc à l'escadron de chasse à cette Provence qui est situé sur la base d'Abu Dhabi. Et on avait une mission de combat contre F-22. Donc en fait, on est parti pour faire une mission de 2 contre 1, donc c'était 2 F-22 contre nous. À F-22 au sol, c'est déjà beau. Hein. Mais alors en l'air, on a l'impression d'être dans Star Wars. Quoi. C'est quand même c'est énorme. La taille de sa dérive, c'est plus gros que notre aile. Et quand ils nous ont ramenés sur le terrain, sur la base aérienne d'Al-Dafra, donc le terrain militaire d'Abu Dhabi, donc quand je suis rentré en patrouille avec deux F-22, on est rentrés tous les deux. Et voilà, alors ça c'est quand même une image que je garderai parce que c'est quand même... Enfin, il y a 15 ans, si on m'avait dit « t'iras faire du combat au-dessus du désert contre deux F-22 », je pense que je ne l'aurais pas cru. Donc voilà, donc ça c'était vraiment un bon moment. Mais sinon, non, il y a plein de... En Mirage 2000N, du suivi de terrain au milieu du massif central, de nuit avec des petits passages de blanc, de neige qu'on voit. Enfin, c'est plus des petits moments comme ça qu'une expérience absolument incroyable. Absolument incroyable. Voilà, c'est vraiment une somme de petits moments comme ça, furtifs dans une mission, qui font que... voilà, c'est... Si je pouvais recommencer en tant que jeune PC, jeune pilote de combat en escadron, je pense que je recommencerais.
Ouais. C'est fabuleux. Enfin, oui. Je me retiens de dire le mot depuis le début parce que je pense que je le dirais souvent sinon. Mais
je suis chanceux. Hein. Enfin, on est tous chanceux de faire le boulot qu'on fait. Hein, ça, c'est sûr.
Bon, bah merci pour partager ces petits moments avec nous. Pilote de chasse, la patrouille de France, tout ça à 36 ans, ça peut presque donner l'impression que bon, c'est trop facile. Quoi. Mmh. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu es mauvais, finalement?
Bon, voilà, si tu demandes à ma femme, elle te donnera une liste longue comme le bras, je pense. Mais... non, moi je suis... Il y en a plein. Je suis nul de mes mains. En bricolage, en mécanique, en dessin, je suis... Je pense qu'un enfant de maternelle dessine mieux que moi, je pense, à mon avis. C'est, voilà, je suis vraiment, vraiment nul là-dedans, mais après, voilà, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on a tous un capital de compétences de sang. Voilà. Tu prends Zidane en foot, je pense qu'il doit avoir 99, mais peut-être que comme moi, à la gouache ou au fusain, il est peut-être nul, tu vois. Et voilà, et donc, moi, j'ai certaines aptitudes psychotechniques, psychomotrices qui m'ont permis d'être pilote de chasse et de faire le job que j'ai. Mais voilà, à côté de ça, il y a des choses dans lesquelles je suis vraiment nul, mais vraiment nul. Donc voilà, non, mais bien sûr qu'il y a des... Mais je suis comme toi, je suis comme ton voisin, je suis comme ta boulangère. Je veux dire, il y a des domaines dans lesquels je suis bon, des domaines dans lesquels je suis pas bon. Et voilà, après... L'armée de l'air et de l'espace m'a formé. Hein. C'est-à-dire, au début, je ne savais pas piloter. Et puis, je ne suis pas parti du premier vol sur Epsilon à la patrouille de France. Hein, ça. Premier vol sur Epsilon, ma sélection en vol, c'était en 2003. Et je suis rentré à la patrouille de France en novembre 2019. Donc, il y a quand même eu 16 ans au milieu, faites d'expériences diverses et variées qui m'ont amené là où je suis.
Et ma dernière question aujourd'hui, parce que bon, il faut bien qu'on s'arrête à un moment, même si j'aurais bien aimé que ça dure plus longtemps, t'as peut-être d'autres choses à faire. Ma dernière question aujourd'hui concerne la suite pour toi. Tu es officier sous contrat, ça veut donc dire que dans quelques années, il va vraisemblablement falloir quitter l'armée de l'air. Qu'est-ce que tu aimerais faire après ?
Eh ben, c'est une bonne question. Alors c'est à la fois c'est un challenge et c'est une chance hein, de se dire qu'on peut avoir deux vies professionnelles. Moi, c'est sûr, on parlait tout à l'heure d'images qui nous restaient en vol, enfin, d'expériences, etc. Moi, il y a quelque chose sur lequel je me lasserai jamais. C'est, tu décolles, il pleut, il fait pas beau, il fait froid, et puis d'un coup, tu sors, t'as une mer de nuages, le ciel bleu, le soleil. Voilà, je trouve que ça, c'est une image que tu la fasses en A320 ou en rafale. Je pense que c'est quelque chose qui reste vraiment magique. Donc c'est sûr que moi le vol ça me passionne et voilà. Donc après est-ce que je serai pilote de ligne plus tard, j'en sais rien. Peut-être pas. C'est pas le plus important. Mais non, ce que j'ai envie moi c'est de passer du temps avec ma famille. J'ai J'ai des enfants et puis voilà, c'est quand même une part importante de ma vie et qui va de et ça va être toute la voilà, moi j'ai envie de donner du temps à mes enfants et puis ensuite bah effectivement, j'ai une reconversion à mener. Après moi ce que j'ai envie en tout cas avant de partir dans l'armée de l'air et de l'espace et puis bah peut-être après si je poursuis encore un petit peu avec dans notre institution ou en tant que réserviste peut-être, bah c'est de transmettre. Voilà, c'est j'ai pas envie de partir avec toute cette expérience, avec des bons côtés, des mauvais côtés, mais parce que bah, le pilote du NGF et du SCAF, enfin de l'avion du futur de 2040 ou 2050, et ben aujourd'hui, enfin il est né, voilà, il vient de naître aujourd'hui. Voilà, le mec qui sera chef de patrouille sur le SCAF sur le NGF dans 30 ans, il vient de naître. Voilà. Et j'espère que mon expérience va lui servir, comme l'expérience de mes instructeurs et des instructeurs de mes instructeurs m'ont servi de manière détournée. Voilà. Je pense que transmettre, ça c'est vraiment ce que j'aimerais faire avant de partir. Et puis ensuite, bah voilà, on verra bien de quoi la. Je dois reconnaître que j'ai toujours eu un peu de chance, hein. Voilà, mais est-ce que même ce qui semblait être un mauvais chemin, à chaque fois, ça s'est révélé très bénéfique pour moi en termes d'expérience, une mutation d'état-major pour un officier sous contrat qui est amené à voler tout le temps, on se dit, waouh, le pauvre. En fait, non, mais pouvoir parler du Rafale de 2035 avec les industriels, avec Dassault Aviation, avec Safran, avec Thales, enfin, dire, quelle chance de pouvoir dire, bah voilà, mon expérience opérationnelle, c'est celle-là, et donc je pense qu'on devrait plus s'orienter vers ci, vers ça, etc. Enfin voilà, je trouve que voilà, tout a été bénéfique, donc je suis très confiant dans ce que l'avenir me réserve.
Eh bien, je te souhaite le meilleur pour la suite. C'était le capitaine Grégory, pilote de chasse de l'armée de l'air française, actuellement pilote à la patrouille de France. Merci beaucoup pour ton temps. C'était un très grand plaisir pour moi de t'avoir eu sur le podcast et j'espère que pour l'auditeur aussi, ça aura été un plaisir de t'écouter parler. Et on espère te revoir, toi et les autres Atos, en démonstration bientôt. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui de l'expérience Shiban t'a plu. Pour le numéro suivant, on se retrouve comme d'habitude dans 15 jours sur ta plateforme de podcast préférée. D'ici là, on t'attend sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn au nom d'utilisateur XP Shiban ou tout simplement en tapant l'expérience Shiban dans ta barre de recherche. Tu y trouveras du contenu exclusif et c'est également l'occasion pour nous de pouvoir interagir avec toi. Un retour d'expérience à nous faire ? On aimerait beaucoup savoir ce que tu as pensé de cet épisode. Envoie-nous un message sur nos réseaux sociaux ou un email à contact@xpshiban.com et partage-nous ton point de vue. Le but est de déterminer ce qui t'intéresse et ce qui t'intéresse moins pour ainsi te proposer du contenu toujours plus adapté. Merci à toutes les personnes qui nous envoient un retour détaillé ou simplement un petit mot gentil. Ça fait très plaisir à toute l'équipe. Et si tu apprécies notre travail, la meilleure façon de nous soutenir est de t'abonner, mettre une note, un commentaire et surtout de partager les épisodes autour de toi. C'était l'expérience Shiban, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous et on se retrouve dans 2 semaines.